Salut Raph.
Salut Pat.
Bon, il y a comme une guerre civile qui a éclaté à l'intérieur du prestigieux journal New York Times. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé à cause de la lettre du sénateur Tom Cotton.
C'est fascinant, puis je te dirais en fait d'emblée, là, avant même de rentrer dans le vif du sujet, que j'ai rarement autant eu envie et hâte de te parler à toi et Philippe, parce que là j'ai deux journalistes à qui je parle, et c'est vraiment en fait une espèce de drame journalistique là auquel on a droit, parce que ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, et Philippe pourra me corriger si je me trompe, mais il me semble qu'il en avait parlé d'ailleurs à l'émission, Tom Cotton, qui est un sénateur républicain de l'Arkansas, avait publié une lettre d'opinion dans les pages d'opinion du New York Times, qui, je te résume là les propos, mais appelait essentiellement à une présence des forces armées américaines dans les rues des villes qui étaient les plus touché par les émeutes qu'on voyait. Et la lettre de Cotton, dès qu'elle a été publiée, a créé un immense tollé. De un, parce qu'il y a une bonne partie du lectorat du New York Times qui a vraiment pas apprécié les propos du sénateur. Et surtout, en fait, parce qu'il y a des reporters même à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur du New York Times, qui se sont eux aussi insurgés publiquement contre la publication, pas juste contre la lettre, mais contre la publication de la lettre. Et écoute, ça a été un drame qui s'est, je te dirais, vécu sur plusieurs jours, et éventuellement, ben James Bennett, qui était le responsable des pages d'opinion, a annoncé sa démission. Et dans la foulée de ça, tu as eu une autre histoire qui est moins grosse, mais qui mérite quand même la peine, là, parce qu'elle est tellement semblable que je la mentionne rapidement. Ça touche un autre gros journal de la côte Est, le Philadelphia Inquirer, qui est un petit peu l'équivalent du New York Times pour la région de Philadelphie. T'as un éditeur là aussi là-bas du nom de Stan Wiskowski qui a lui aussi annoncé sa démission dans les dernières heures. Pourquoi? Parce qu'il a autorisé la publication d'un autre texte d'opinion, et je te dis le titre parce que dans ce cas-là, c'est pas tant le propos du texte que le titre du texte qui a choqué. Et je te le traduis librement là, les édifices sont aussi importants. C'était ça. Buildings also matter, parce que évidemment, t'as le slogan Black Lives Matter. Donc, c'est une façon de dire, oui, les vies des Noirs sont importantes, mais si vous détruisez des édifices, c'est grave ça aussi. Mais la façon de le présenter, ça a choqué beaucoup de monde.
Écoute, on va demander l'opinion dans une seconde à l'ancien rédacteur en chef de la presse, M. Ouais. Quentin. Mais je vais vous donner, les gars, mon point de vue sur ce qui s'est passé au New York Times. Le journal décide de quelle lettre il va publier. La lettre de Cotton, du sénateur Tom Cotton, a scandalisé beaucoup de journalistes, beaucoup de gens dans la place, parce que lui, il prêche, oui, l'envoi de l'armée américaine dans les rues américaines pour ramener la loi et l'ordre. C'est vraiment... Si ce gars-là était français, on n'hésiterait pas à dire qu'il est d'extrême droite. Mm-hmm. Et là, il y a plein de gens qui disent dans le journal, on n'aurait pas dû publier ça. Moi, mon point de vue, là, Philippe, corrige-moi, je me trompe. Tu sais, il n'y a pas de... C'est pas le fruit d'une enquête. Il n'y a pas d'informations à vérifier là-dedans. Tu le publies ou tu le publies pas. Une fois que tu l'as publié, comme le New York Times a fait, commencer à dire « Ouais, ben écoutez, on a révisé, puis là, ça ne rencontrait pas nos standards d'éthique puis journalistique. » Moi, je trouve que c'est hypocrite comme position. Une fois que tu as décidé de le publier, ben tu le publies puis tu vis avec. C'est pas comme si tu avais publié une enquête où tu découvres des erreurs après. Là, tu te dis « Ben excusez-nous, on a fait une gaffe. » Et voici, on corrige le record, comme on dit.
Ouais, mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, ce qui a joué très fort, deux facteurs. Bon, d'abord, il y avait des erreurs de fait dans le papier de Tom Cotton et des affirmations complètement gratuites, comme par exemple dire que les responsables de la case, c'étaient les antifas, les antifascistes, c'était un fait avéré dans son texte. C'était même pas sujet à débat. Alors ça, comme ça, un fait comme celui-là...
Mais faut que tu le flagues avant.
Oui. Et c'est là que James Bennett, le directeur des pages d'opinion du New York Times, a commis son erreur. Il a avoué ne pas avoir lu le texte avant la publication. Alors, une fois que tu n'as pas lu le texte...
C'est un minimum pour un boss de journal.
Surtout dans une situation aussi controversée que celle-là. Tu sais, c'est clair que quand tu arrives dans une mouvance journalistique comme celle qu'on connaît à l'heure actuelle, si tu es patron de journal, tu es un grand boss, il faut que tu lises tout, il faut que tu vérifies les titres. C'est ça ta responsabilité ultime. Et ça, il ne l'a pas fait. Et c'est pas la première fois que James Bennett se retrouve dans une situation controversée comme celle-là. Il y a déjà eu des coches mal taillées dans le passé avec certains dossiers, qui a eu très Hillary Clinton. Bon, il y a eu un certain nombre. Alors, c'est comme la proverbiale goutte là, qui fait déborder le vase dans son cas. Et je pense que là, les journalistes aussi avaient raison de s'interroger sur l'opportunité de publier cette lettre.
Mais Raphaël, tu connais mieux le sénateur Tom Cotton que nous. Moi, j'ai lu une analyse qui disait, écoutez, Cotton, qu'on pense ce qu'on veut de ses politiques, il a été extrêmement habile. D'abord, il a réussi à faire publier ça dans le New York Times. Ensuite, vu la controverse, Il peut dire, regardez comment ils sont en guerre civile avec les gens d'extrême-gauche dans ce journal-là. Il peut, maintenant, en plus, casser du sucre sur le dos du journal.
Pat, c'est la plus grande ironie. Je partage absolument ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le plus grand gagnant de cette affaire-là, encore une fois, extrêmement ironiquement, c'est Tom Cotton. Parce que de un, effectivement, il a été publié dans le New York Times, ce qui n'est pas nécessairement un fait accompli pour un sénateur républicain aussi à droite que lui l'est, en premier lieu. Et de deux, sa lettre a été tellement plus médiatisée et publicisée qu'elle ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu tout ce scandale-là autour de sa publication. Donc oui, il y a ça. Ce que je serais tenté de vous demander à vous deux, à la fois Pat et Philippe, c'est, parce que Philippe parlait il y a un instant là, des erreurs ou tout au moins des manques de M. Bennett dans son travail. Qu'est-ce que vous en pensez comme journaliste si, par exemple, l'enjeu en était un vraiment de valeur? Parce qu'il y a certains reporters du New York Times pour qui le problème, c'était pas tant que M. Bennett avait pas lu le texte, c'est que le texte de M. Cotton portait, je vous dirais carrément, ombrage à leur valeur. C'était un choc de valeur. Et certains même journalistes afro-américains du New York Times ont dit qu'ils se sentaient menacés par les propos de cette lettre-là, qui, encore une fois, va quand même assez loin, là, appelle, encore une fois, à une certaine militarisation du conflit qu'on avait. Fait que si c'était ça l'enjeu, est-ce que, et tu sais, je sais pas si c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, là, je pense pas que c'est blanc ou noir, c'est vraiment gris. Mais je sais pas si vous avez une opinion là-dessus, oui, comme journaliste.
Ben, son texte ratissait très large, très, très large, beaucoup trop large, et il aurait dû être édité. Et même si c'est une lettre d'opinion, c'est pas parce que c'est une lettre d'opinion que tu peux écrire n'importe quoi, là. C'est pas parce que là, les faits ne comptent plus, lettre d'opinion. C'est pas de même que ça fonctionne.
Mais Cotton les a quand même mis dans un piège. C'est-à-dire, tu leur envoies une lettre, puis après ça, s'ils veulent que tu fasses des changements, tu peux te revirer et dire « Ah, regardez, ils veulent pas me publier, ils me censurent. »
Ben, tu peux discuter aussi, mais chose certaine, ce qui est inadmissible dans un contexte comme celui-là, je le répète, c'est de la part du responsable d'avouer « Je l'ai pas lu, la lettre avant publication. » Ça, c'est bien plate, là, mais ça se fait pas. Puis c'est quand même... Là, c'est la section éditoriale, là, je peux comprendre, c'est une autre dynamique, mais si t'es rédacteur en chef d'un journal, puis il y a une manchette qui fait jaser, puis le lendemain matin, on te demande parce qu'il y a un fil qui a mal retroussé, puis tu dis « Ben, désolé, j'ai pas eu le temps de le lire. » Regarde, oui, c'est un motif de départ.
Personnellement, moi, j'envoie toutes mes chroniques à mes boss, comme ça. Bon, comme voilà. Ça, s'il arrive quelque chose au jour de la publication, tu peux dire, écoutez, je l'ai envoyé à toute la hiérarchie, ben il faut les lire avant. Puis moi, je dis pas ça pour faire le fin finot. Tu veux que le plus de monde possible passe sur tes textes, comme ça, s'il y a une erreur de fait, si tu y vas trop fort, si tu es dans le champ, il y a quelqu'un qui allume, tu sais. Mais là, de publier puis de pas l'avoir lu, mon Dieu, que c'est au journal étudiant, tu apprends ça.
Et on parle du plus grand quotidien des États-Unis d'Amérique.
Mais
c'est quand même ça aussi.
Ça nous rappelle qu'il n'y a pas d'institution parfaite, puis même pas le New York Times.
Exactement.
OK, Raph, on se reparle demain. Merci.
À demain.
Monsieur Quentin, vous êtes libéré?
Oui. En te disant que, attention avec le coronavirus, 136 000 morts, 136 000 cas, nouveaux cas dimanche, c'est le plus haut total depuis le début de la pandémie.
Mais ça baisse au Québec.